stupendo. Sei con me, goccia goccia al mio bicchiere, bevi pecio per te. Fiori del vele, fiori del vele, sei stupendo come sei. I tuoi occhi giallo fuoco, dai che ci sei. Fiori del veleno, persi nell'oscurità. Fiori del veleno, caro, la tua rotta di Parsifal.
Gianna Nannini, Fiori del Veneno. Alors, je me propose de vous lire des témoignages ou extraits de documents qui se sont penchés sur la question soit de la laïcité et de la construction de l'identité musulmane, soit du rôle des femmes dans les pays où on exige d'elles qu'elles portent ce voile, ou dans les pays où ces femmes décident de résider, comme par exemple en France ou en Suisse. Alors, la première contribution que j'ai envie de vous faire partager, c'est un texte écrit par une femme qui s'appelle Mal et qui nous raconte un récit personnel qui vient d'Algérie puisqu'elle a vécu en Algérie. Donc sur ce thème, laïcité et construction de l'identité musulmane. J'appartiens à cette catégorie de gens qui ont eu la chance de grandir dans des contextes religieux, culturels et ethniques mixtes et qui, loin de souffrir d'une perte d'identité, ont plutôt profité de la richesse d'identités multiples, concomitantes et non antagonistes. Vers la fin des années 50 et au début des années 60, la plupart d'entre nous, mes amis et amies, algériens, algériennes, militants, militantes et étudiantes, étudiants, nous étions ouvertement laïcs, sans inclination religieuse, ou en tout cas non pratiquants. Et nous étions engagés dans une lutte de libération au nom du nationalisme et du socialisme, et non pas au nom de la religion. Au sein de la génération qui nous précédait, les musulmans et musulmanes pratiquants et pratiquantes que nous connaissions et avec qui nous militions étaient généreux et humains, puisant dans leur foi la force de bannir la haine raciale de leur cœur, même pendant la colonisation, même pendant la guerre de libération. Elles et ils étaient très loin des fondamentalistes d'aujourd'hui. Durant la guerre de libération, alors qu'une polarisation aiguë se manifestait entre Algériens, Algériennes et Européens, Européennes, certains et certaines d'entre nous ont eu le privilège de travailler avec des Européens chrétiens en Algérie qui étaient inspirés par les principes d'humanité et de fraternité de leur religion pour aider les combattants et combattantes de la liberté algérienne. Nous travaillons également avec des internationalistes et des groupes cosmopolites en France dont l'engagement et la volonté de défendre le droit à l'indépendance de l'Algérie ne s'enracinaient dans aucune foi religieuse, mais bien dans leur philosophie des droits humains et de justice sociale. En d'autres mots, mon éducation politique a été faite par des femmes et des hommes qui, athées, musulmans, chrétiens ou juifs, défendaient des principes tirés en fait de diverses sources, mais les conduisant à une position commune au sujet du droit des gens à décider pour eux-mêmes, de l'anticolonialisme, de la justice sociale et des droits humains. L'expérience cruciale de ma génération, la guerre d'indépendance, nous a laissé, jeunes activistes, avec une connaissance profonde que la moralité, l'humanité, la générosité et le courage n'appartenaient à aucune croyance, ni à aucun groupe ethnique ou national. Les visiteurs de l'Algérie, nouvellement indépendante, étaient frappés par l'absence de racisme ou de sentiments de haine, de revanche et de représailles après 7 ans d'une guerre qui a tué 2 millions d'Algériens, selon les sources du Front de Libération Nationale du FLN. C'est pourquoi il est d'autant plus surprenant d'assister à la monopolisation de ces valeurs par des fondamentalistes islamiques, lentement mais sûrement, dans l'espace de près de 40 ans d'indépendance, et de voir des tendances similaires dans de nombreux autres pays musulmans. L'intolérance prévaut à l'encontre des Algériens et Algériennes qui ne sont pas musulmans, et pire encore, qui ne sont pas croyants, et à l'encontre des agnostiques et des athées. La xénophobie a conduit à l'assassinat d'étrangers et d'étrangères. L'explosion de violence et de meurtres d'intellectuels et de femmes sont devenues les cibles principales des fondamentalistes et justifiées par le fait qu'elles et ils ne seraient pas de bons musulmans ou pas assez musulmans, que ce soit dans leur vie quotidienne et privée ou dans leur position politique. Alors que nous avons mené une guerre de 7 ans pour pouvoir nous appeler Algériens, Algériennes et non plus musulmans, musulmanes ou indigènes, comme nous appelaient les colons français. Et nous sommes retournés maintenant à ces étiquettes coloniales et les fondamentalistes ont imposé à tout le peuple algérien une identité unique et exclusive de tout autre, une identité musulmane. De plus, cette étiquette est utilisée par de très nombreuses personnes à l'extérieur de l'Algérie qui, il y a quelques décennies, n'auraient pas osé nous appeler un ou une musulman ou musulmane, mais nous auraient respectueusement appelé une Algérienne, un Algérien. Et qui maintenant ne sont plus satisfaits de notre seule identité nationale et insistent pour nous étiqueter selon la religion, le groupe ethnique ou la tribu, cela m'est arrivé si souvent, et ne voient aucun problème à insister sur ces étiquettes. Les formulaires administratifs dans des pays de plus en plus nombreux, même des pays laïcs, prévoient maintenant une ligne où le requérant ou la requérante d'asile doit indiquer sa religion et parfois son origine. Cela signifie-t-il son origine raciale ou ethnique ? Cela va-t-il servir plus tard à traquer le sang impur et à créer des citoyens et des citoyennes de deuxième classe ? Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Pour moi, la dénomination musulman attribuée à une des nationalités de l'ex-Yougoslavie, dans le silence et dans l'indifférence des autres nations et de la gauche européenne, incarne cette tendance. Je le répète, donc, pour Mal, qui nous fait part de ce récit personnel de sa vie en Algérie, il y a de cela, cela a commencé, elle évoque des moments dans les années 50 et 60 de la libération, Il dit qu'aujourd'hui, pour elle, la dénomination musulman ou musulmane attribuée à une des nationalités de l'ex-Yougoslavie, dans le silence et dans l'indifférence des autres nations et de la gauche européenne, incarne justement cette tendance à étiqueter les gens. Le fait qu'une grande majorité des prétendus musulmans de l'ex-Yougoslavie sont des non-croyants et que le terme musulman ne se réfère pas ici à une foi ne semble déranger personne. Est-on musulman ou musulmane par naissance? Est-ce aussi indélébile que le péché originel? Est-ce une race, une couleur, une culture? Si c'est une culture, cela signifie-t-il que tous les musulmans du monde sont pareils? Ceux qui voilent les femmes et ceux qui les laissent se promener les seins nus, ceux qui pratiquent la mutilation sexuelle des femmes et ceux qui n'ont jamais entendu parler d'une telle pratique? Ceux qui enferment les femmes et ceux qui les exportent comme travailleuses domestiques dans les pays du Golfe? Ceux qui ont des femmes chefs d'État et de partis politiques et ceux qui leur interdisent de conduire une voiture? Ceux qui croient en Dieu et ceux qui sont communistes et athées? Quelqu'un peut-il déclarer, contre votre volonté, vous êtes ou vous devriez être musulman? À cause de votre lieu de naissance, vos origines familiales et votre pays? Et si cela arrive, que pouvez-vous faire? Y a-t-il une chose telle que le monde musulman, comme le prétendent les fondamentalistes? Est-ce une entité politique, allant de royaume au fédéralisme, à la démocratie, au capitalisme et au socialisme? L'Oumma est la communauté des croyants. Mais qu'est-ce que peut bien être le monde musulman? Pourquoi tant de gens, non seulement dans les communautés et les pays musulmans où les fondamentalistes sont à l'œuvre, mais aussi dans le monde extérieur, sont-ils prêts à croire à une telle entité? Quel est son contenu épistémologique? La construction de l'identité musulmane est une tâche commune entreprise conjointement par les fondamentalismes musulmans et par tous ceux et toutes celles qui, de la droite hindoue à la gauche européenne et beaucoup d'autres, identifient un groupe ou une personne par une étiquette religieuse sans le consentement des personnes concernées et sans égard pour les autres caractéristiques d'identification qu'elles voudraient voir utilisées. Loin de témoigner du respect pour la culture des autres, l'identification religieuse gratuite, injustifiée, est une atteinte à la liberté individuelle et collective. Il y a de moins en moins de place pour une identification non religieuse et cela constitue une menace réelle pour l'humanité. La simple laïcité est maintenant considérée comme une attaque contre la religion. Le droit d'être laïque a été sévèrement réduit partout dans les pays musulmans. Les fatwas pour de prétendus blasphèmes ou apostasies ou pour avoir critiqué l'islam sont en augmentation, comme on l'a vu récemment au Pakistan, Bangladesh, Tchad, Égypte, Algérie, etc. Il y a 50 ans, André Malraux écrivait « Le 21e siècle sera religieux ». Les fondamentalistes musulmans ne le contrediraient certainement pas. L'expansion de l'islam comme foi, et donc de l'Oumma, le monde musulman, ne satisfera pas leur volonté de construire un monde musulman, dont nous devons craindre le pire. Dans notre propre expérience d'organisation de femmes, nous avons aussi vécu les pressions pour passer de notre perspective générale des droits humains, qui selon nous inclut également travailler pour réformer des lois prétendument religieuses, à un travail plus exclusivement à l'intérieur du cadre religieux. Notre résistance à cette tendance ne rencontre que rarement le soutien du monde extérieur. Le réseau des femmes vivant sous loi musulmane n'est pas une organisation de femmes musulmanes. Il tire son nom d'un simple fait sociopolitique. Les femmes nées dans des contextes musulmans d'un côté partagent certaines situations similaires et de l'autre vivent des différences étonnantes. Ces différences sont dues à plusieurs facteurs. Différentes interprétations de l'islam, différentes cultures dans lesquelles l'islamisation s'est faite, différentes situations politiques, utilisation politique de la religion et des traditions, etc. La connaissance de ces similarités et ces différences permettra aux femmes de mettre en question le caractère divin des coutumes et des lois et de promouvoir les meilleures lois et pratiques, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur du prétendu monde musulman. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que certaines similarités dans nos situations peuvent venir d'interprétations religieuses. Le réseau des femmes vivant sous loi musulmane se devait donc de travailler de l'intérieur et de l'extérieur du cadre de la religion. Et nous n'avons pas trouvé dans ce processus de contradiction ontologique. Nous avons plutôt répondu à différents besoins. De nombreuses activités du réseau de femmes vivant sous loi musulmane sont de nature laïque, d'autres tendent à promouvoir les interprétations de la religion faites par des femmes. Deux raisons ont entraîné la décision du réseau des femmes vivant sous loi musulmane de travailler également dans le domaine des réformes dans le cadre religieux. D'un côté, de nombreuses femmes n'arrivaient pas à se battre pour leurs droits civils et humains parce qu'elles internalisaient l'accusation faite par les fondamentalistes selon laquelle, en réclamant leurs droits, les femmes trahissaient l'islam, leur communauté et leur pays. Alors ces femmes devaient trouver pour elles-mêmes, au sein de leur propre religion, l'inspiration et la justification pour leur lutte, leurs problèmes et leurs stratégies. Jusqu'alors, les fondamentalistes étaient les seuls à parler religion et ils avaient envahi le terrain, ne laissant aucun espace aux réformistes qui étaient menacés, réduits au silence ou tués dans plusieurs pays. Ces femmes religieuses avaient un besoin évident d'entendre une version de l'islam plus progressiste et on peut l'espérer plus féministe et d'être en contact avec des théologiennes islamiques et féministes et avec une théologie de la libération islamique afin d'être rassurées et renforcées dans leur droit à une réinterprétation. D'un autre côté, les attaques indifférenciées contre l'islam rendaient difficile pour nous toutes la dénonciation de la montée des tendances et des partis de la droite religieuse, fondamentaliste, sans dissocier les activités et pratiques de celles des musulmans et musulmanes non fondamentalistes. À ce point, nous devions éviter d'entrer dans un débat essentialiste sur l'islam. La plupart d'entre nous qui ne sommes pas théologiennes et n'avons pas l'intention de le devenir, nous ne traitons qu'avec les réalités sociopolitiques de ce que les musulmans et musulmanes font plutôt qu'avec ce que l'islam devrait être, veut être ou prétend être. Alors cet aspect spécifique du travail du réseau des femmes vivant sous loi musulmane fait partie d'une tâche beaucoup plus vaste de création de réseaux. Activités de solidarité, analyse des lois et pratiques, de leurs origines variées, coutumières ou coloniales, de leur application aux femmes, échange de stratégies, etc. Cependant, le simple fait qu'en tant que réseau de femmes d'origine différente, nous n'excluions pas de travailler avec des femmes venant du cadre religieux a provoqué des réactions intéressantes. Tout d'abord, nous avons dû nous habituer aux accusations d'être trop religieuses ou bien pas religieuses, et cela selon l'air du temps. D'autre part, je suis inquiète, dit toujours l'auteur de ce texte, Mal, je suis inquiète de voir qu'au... Marie et Luca. D'autre part, je suis inquiète de voir qu'au fil des années, les activités qui sont rapportées à l'extérieur de nos pays sont celles qui ont trait à la réinterprétation et aux réformes dans le cadre de l'islam, alors que nos activités laïques sont considérées comme moins typiques ou moins exotiques, et elles sont plutôt ignorées. Notre travail avec les théologiennes islamiques féministes reçoit une large publicité à l'étranger et a toujours trouvé des bailleurs de fonds. Les conférences internationales et de l'ONU ont souvent fait connaître leur désir d'être en contact avec le réseau des femmes vivant sous loi musulmane. Ce que nous faisons volontiers et qui nous fait très plaisir, si ce n'était pas par un intérêt exclusif opérant au détriment d'autres points de vue. De plus en plus de conférences féministes en Europe et en Amérique du Nord incluent des thèmes ou même se centrent sur les femmes musulmanes, un concept qu'elles utilisent malheureusement trop à la légère, avec une absence totale de conscience politique et qui, à mon avis, tend à renforcer, sans le vouloir je présume, l'idée fondamentaliste selon laquelle les femmes nées à certains endroits sont nécessairement des musulmanes croyantes. Les féministes devraient être un peu plus attentives. Alors, je ne peux m'empêcher de voir cet intérêt croissant comme une autre forme d'étiquetage qui enferme les gens, musulmanes et musulmans, dans leur islamisme et les prive de leur part d'humanité, les piège dans une foi en laquelle ils et elles ne croient peut-être pas, et une culture musulmane homogène, imaginaire, qui n'existe nulle part au monde. C'est le projet du fondamentalisme. Ça ne devrait pas être celui des progressistes. Le respect des différences, de la culture et de la religion d'autres peuples ne doit pas conduire à la ghettoisation, mais à l'ouverture et à la tolérance. En tant que laïque, je défends mes multiples identités. Laïcité est la seule garantie qui me permettra peut-être de préserver la diversité de la richesse humaine, qui est mon héritage, et de le partager avec d'autres, sans être condamné à mort pour apostasie ou blasphème. Je rappelle le titre de ce texte. Le titre de ce texte, c'était « Témoignage en provenance d'Algérie, récit personnel » sur le thème « Laïcité et construction de l'identité musulmane » et il était signé par Marie-Amélie Luca qui appartient au réseau des femmes vivant sous loi musulmane. Barbara dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8.
À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle. Qu'on ne me voit jamais fanée sous ma dentelle. Fanée sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos ombres plus claires, vous pouvez vous faire l'enlair. J'ai vu l'or et la pluie sur les forêts d'automne. Les jardins alanguis, la vague qui se cogne, la vague qui se cogne. Et je sais sur mon cou la main nue qui se pose. Et j'ai su à genoux la beauté d'une rose, la beauté d'une rose. Et tant mieux s'il y en a qui les yeux pleins de lumière ont préféré les combats pour aller se faire l'enlair. Au jardin du bon Dieu, ça n'a plus d'importance. On s'y couche amoureux, ou tomber pour la France, ou tomber pour la France. Il est d'autres combats que la fin des mitrailles. On ne se blesse pas qu'à vos champs de bataille, qu'à vos champs de bataille. Et ne comptez pas sur moi, s'il faut soulager mes frères, et pour mes frères ça ira. Ce que j'ai pu faire, si c'est peu, si c'est rien, qu'il décide eux-mêmes. Je n'espère plus rien, mais je m'en vais sereine, mais je m'en vais sereine. Sur un long voilier noir, la mort pour équipage. Demain c'est au revoir, je quitte vos rivages, je quitte vos rivages. Car je choisis l'âge tendre.
Barbara dans Onde Femme, Radio Zone, Remue Ménage, et c'est sur 93.8. Je vous le disais, le collectif 14 juin propose de poursuivre un débat sur le foulard islamique ou sur le costume islamique ici pour nous en Suisse, avec des contributions de femmes qui ont réfléchi depuis longtemps à la question parce qu'elles travaillent dans le réseau des femmes vivant sous loi musulmane, parce qu'elles vivent en France et qu'elles travaillent avec... ces femmes, jeunes femmes qui sont nées en France, cette deuxième génération, et que pour elles, c'est une réflexion qu'elles mènent déjà depuis longtemps. Et Gaïs Jasser est l'une d'entre elles, puisqu'elle a écrit un texte qui a pour titre « Le voile en deux mots ». À savoir que pour elle, à la fois il faut condamner le port du voile, mais il faut aussi condamner l'exclusion des jeunes femmes, des jeunes filles, parce que selon elle, il faut agir contre ces deux exclusions qui sont celles à la fois qui isolent les jeunes filles en tant que femmes et celles qui leur interdisent l'accès à l'enseignement public. Dans une contribution qui va un peu dans un autre sens de ce que nous avons pu lire jusqu'à maintenant. Donc Gaïs Jasser affirme que par conséquent il y a une seule position qui lui semble juste, c'est d'agir contre ces deux exclusions, donc celle en tant que femme et celle qui interdit l'accès à l'enseignement public. Et en opposant le combat féministe à l'activité intégriste et à la xénophobie qui tentent à étouffer le dialogue en cloisonnant les cultures. Alors, Gaïs Jasser fait une introduction à son texte qui a pour titre Le voile en deux mots en disant ceci. La resurgence du voile dans certains coins et milieux du monde arabo-musulman prend certes ses racines dans des pratiques d'oppression séculaire et reviennent en force chaque fois que les femmes font de nouvelles conquêtes susceptibles d'améliorer leur statut social ou politique. Cependant, l'affaire du voile, comme on l'a posée, telle qu'elle s'est posée en France, est entre autres la conséquence et est loin d'être la seule et ne ressassera certes pas la dernière, d'un contentieux durable entre l'Occident et le monde arabo-musulman. Un contentieux qui, selon les crises économiques politiques du moment, prend des reliefs et des accents différents. Ainsi peut-on dire que le voile, qui est un mal en soi, représente un second mal quand il sert en France comme prétexte à un fond de xénophobie en mal d'argument. Alors, dit Gaïs Jasser, je n'ai guère ici l'ambition d'analyser ce contentieux, ni de remonter à ses origines, ni de suivre ses multiples évolutions, études, recherches et documentaires, etc., télévision et tout ça se sont frottés à ce problème épineux. Mon but est plutôt d'essayer de démonter un processus qui s'est beaucoup répété ces dernières années et qui provoque à chaque fois les mêmes types d'interrogations et de réponses, des interrogations propres à un certain Occident qui méconnaît souvent le monde arabo-musulman, qui ignore sa complexité et ses évolutions et ses régressions, et continue à entretenir dans ce contexte des préjugés tenaces, des réponses passionnelles et défensives émanant des arabo-musulmans, où les justifications se substituent fréquemment aux raisonnements logiques et objectifs. Or, si certaines règles d'objectivité étaient respectées, et si le concept de l'universel et de l'interprétation du particulier n'était pas sans cesse tronqué, manipulé ou vidé de sens, eh bien ces interrogations n'auraient certes pas été les mêmes, et les réponses auraient été sans doute moins crispées. Alors, elle propose que de définir sa position féministe en exposant les raisons pour lesquelles elle se prononcera à la fois contre le port du voile, mais contre l'exclusion des filles voilées dans l'école publique.
Mmh.